J'ai défendu le vivre en commun des chrétiens et des musulmans dans un pays qui sépare religion et État. Donc le Liban est un État civil. C'est ce qui le différencie de tous les pays de ce monde arabe et le différencie des pays de l'Occident. Le Liban, tout en séparant religion et État, respecte Dieu et la loi divine, soit révélée, soit naturelle. C'est ce qui fait la spécificité du pays. Maintenant, ce qu'on appelle confessionnalisme, c'est la traduction du pacte national de vivre en commun. Qu'est-ce que cela veut dire? Que pour donner des garanties aux chrétiens et aux musulmans, ils partagent ensemble le pouvoir politique et le pouvoir administratif pour vivre ensemble, parce que nous formons deux sociétés, si vous voulez, deux civilisations différentes. Les musulmans tendent, de par la nature, à l'islamisation. Les chrétiens tendent à la laïcisation. Pour donner les garanties aux uns et aux autres, il y a ce fameux pacte national. Cela, on l'appelle confessionnalisme. Mais l'important, c'est ce pacte national de vivre en commun, ensemble. Et c'est le lieu de dialogue et de rencontre. Mais cette situation, maintenant, passe dans une crise politique. La figure du Liban n'a pas changé, mais étant donné que nous sommes délaissés par l'Orient et par l'Occident, comment voulez-vous que le Liban soit le lieu de rencontre et de partage?
Béatitude, vous appelez la communauté internationale et les pays amis à vous aider. Comment cette communauté peut vous aider concrètement aujourd'hui?
La communauté internationale, j'entends l'Organisation des Nations Unies, parce que la décision du statut de neutralité du Liban devrait être une décision de l'ONU. Et aussi, en même temps, il faut qu'il soit accueilli par notre monde arabe. Presque la majorité de la population libanaise aspire et demande ce statut de neutralité. C'est dans ce sens que je parle de la communauté internationale.
Et alors, qu'implique-t-elle cette neutralité?
C'est la neutralité dans le sens que le Liban devient le défendeur de la paix sans se mêler dans les politiques et les conflits régionaux et internationaux. C'est ce qu'on appelle la neutralité utile ou la neutralité positive. Ce n'est pas qu'il est neutre et ne s'intéresse à personne, non. Mais il est actif dans tout ce qui est valeur de paix, de justice, de vivre ensemble, de liberté. C'est ça la vraie vocation du Liban. C'est pourquoi le saint pape Jean-Paul II l'a appelé le Liban plus qu'un pays. C'est un message et mission pour l'Orient et pour l'Occident.
Vous insistez beaucoup sur ce point. Cette neutralité est-elle en danger aujourd'hui? Qu'est-ce qui la menace?
Il y a la neutralité en pratique. Mais maintenant, avec la question de Hezbollah, qui veut faire la guerre et entraîner le Liban à des guerres, et lui, il fait la guerre, mais il entraîne le pays. La guerre en Syrie, la guerre au Yémen, la guerre un peu partout. Ce n'est pas normal. Donc la neutralité du Liban, qui était par son essence, maintenant est déchirée. Malheureusement, il y a la mainmise du Hezbollah sur la politique et sur le gouvernement. C'est pourquoi nous sommes délaissés, soit par les pays arabes, soit par l'Europe, soit par l'Amérique, qui disent nous ne sommes pas prêts à aider le Liban parce que il a la mainmise du Hezbollah.
Béatitude, est-ce que vous craignez que cette crise n'entraîne une nouvelle vague d'émigration, notamment parmi les chrétiens?
Sûrement, parce que nous vivons dans la famine. Maintenant, c'est la famine au Liban. C'est la panique du chômage. Et 50% de la population libanaise sont dans le chômage. Et nos jeunes font presque tous l'université, ils sont diplômés. Comment voulez-vous qu'ils vivent? Soit chrétiens, soit musulmans. Mais étant donné que le nombre de chrétiens devient de plus en plus mineur, oui, nous avons la grande vague de migration maintenant. C'est pourquoi il faut remédier le plus tôt possible. C'est ce que nous faisons sur le plan de charité. Nous sommes en train d'aider les familles qui n'ont aucune ressource pour vivre. Et cela ne veut pas dire que nous combattons le chômage. Endiguer l'immigration, c'est une question politique. Et quand la question politique est réglée, alors la question économique sera réglée, parce que c'est une conséquence du politique.